C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Bienvenue à tous, toujours en compagnie d'Alain Mécanat qui est avec moi. Salut Alain.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Alors, autre grosse semaine dans le monde de l'automobile. Vous allez voir, on a plein d'actualités. Puis on s'est aussi collé sur l'actualité pour nos entrevues aujourd'hui.
Ouais, on peut parler de véhicules au sens plus large, en fait.
Ben, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mm-hmm. C'est ce qu'on va faire parce que notre premier invité est de produits récréatifs Bombardier, BRP. Mm-hmm. Il s'appelle Bernard Guy. C'est le vice-président stratégie au niveau de chez BRP.
Au niveau des produits.
Au niveau exactement. Des produits. Parce qu'on a annoncé la semaine dernière l'électrification de produits récréatifs chez BRP pour 2026.
D'ici, oui, avec un premier véhicule récréatif électrique d'ici 2 ans.
Voilà, donc on va en parler. C'est Alain qui va faire une bonne partie de l'entrevue. C'est lui qui a fait les démarches pour l'entrevue, mais ça va être intéressant. Et notre deuxième invité aussi, on est d'actualité parce que le CA cette semaine a annoncé que le Québec... Oh, malheureusement, les pires routes du Canada. Êtes-vous surpris?
Bon, on n'a pas besoin de CA pour nous l'apprendre. On a juste besoin de prendre la route.
Ce qu'il y a d'intéressant, par contre, Alain, c'est que là, on a des preuves à l'appui. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste dit on a des mauvaises routes. On a des preuves que ça coûte plus cher aux automobilistes québécois pour rouler chaque kilomètre de nos routes. Il y a 51% des routes au Québec qui sont en mauvais état. Hey, c'est quelque chose, là. C'est la moitié des routes.
Et 80% de ces routes-là sont sur mon chemin, je pense.
Tout le monde va dire la même chose. Mais c'est clair. Je pense que tous ceux qui font le moindrement de routes au Québec, tous les jours, doivent rencontrer des routes. On est parmi les rares automobilistes en Amérique du Nord, qui regarde pas le paysage quand il roule, qui regarde devant soi pour pas pogner un trou.
Il y a tellement de questions irrésolues par rapport à ça. Parce que ça coûte cher construire une route au Québec. Là. Au kilomètre, le coût est plus élevé qu'à bien d'autres endroits et ça s'effrite plus rapidement.
Voilà. On va parler de ça avec Nicolas Ryan et moi aussi, j'ai pas mal de réponses à ça parce que c'est un dossier, moi, qui m'intéresse. C'est ce que je suis depuis des années. Mm-hmm. Évidemment, on va avoir nos essais routiers. Toi, tu vas terminer ta cavalcade des produits Kia.
Ah, c'est bien dit. Hein? Oui. Avec, non le moindre, le Kia Telluride ou Telluride en bon québécois. Telluride qui est une ville du Colorado reconnue pour ses pistes de ski et ses activités de plein air.
Qui est très belle d'ailleurs. On est déjà allé en lancement, mais pas pour le Kia Telluride. Ah. C'était d'autres modèles, mais effectivement, c'est très joli. Et moi, je vais faire un petit tour d'horizon du RX Lexus RX 450 hybride que j'ai eu à l'essai, que j'ai remis cette semaine. Donc,
un des véhicules les plus populaires auprès des voleurs, ça, ou un truc dans le genre?
C'est le véhicule le plus populaire auprès des voleurs, puis ça aussi...
Ils ont-ils une bonne raison?
Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Il y a effectivement une raison à ça. Alors, avant tout ça, Alain, on va commencer comme à l'habitude avec nos actualités. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine?
Ben, écoute, parlant de Lexus, la marque de luxe de Toyota a enfin dévoilé un premier prototype de véhicule entièrement électrique qui va mener à quelque chose, mais en tout cas, ce quelque chose-là reste à être déterminé. Ce véhicule-là s'appelle le LFZ dans la plus pure tradition de Lexus en termes de nomenclature de produits. Donc, a été dévoilé au Japon mardi. Ça incarne le virage électrique du groupe Toyota au sens plus large, mais disons que c'est un virage léger, non pas à 180 degrés. Lexus a annoncé 20 nouveaux modèles d'ici 2025 et 10 d'entre eux seulement seront électriques ou hybride ou à hydrogène. Donc là, c'est très timide comme
puis,
virage.
Toyota est assez clair. Hein? On veut d'abord, comme but premier, diminuer l'empreinte des véhicules sur la route. Et en ce moment, la manière la plus rapide et la plus efficace, c'est les hybrides.
Ouais, ils ont, je vais pas dire qu'ils font pas du tout cavalier seul, mais ils ont une stratégie bien à eux.
Ouais.
Akio Toyoda, qui est le grand patron de la boîte, considère
et
en
l'arrière, petit-fils
et
du fondateur.
Lourd, oui, ça pèse lourd dans la balance quand on est un gestionnaire au Japon. Il considère les véhicules électriques actuellement comme une mode très exagérée, un hype, comme il le dit en bon japonais. Donc, ça explique un peu le positionnement de Lexus et de Toyota là-dessus. Pour parler du LFZ, si vous allez voir les images sur Internet, vous allez voir, c'est un véhicule...
Il est très beau.
Dans l'esprit du design de véhicules électriques actuels dans l'industrie.
Ouais.
Véhicule angulaire, futuriste. Ouais. C'est intéressant. Moi, ce que je trouve très joli, c'est qu'on a revu la calandre. On abandonne l'espèce de calandre actuel là, qui ressemble à la face d'un Cylon. Le
sablier, ce qu'on appelle la calandre en sablier.
Exactement. On remplace ça par un bouclier uni, parce qu'évidemment, plus besoin d'entrée d'air.
Ben
au centre duquel, on trouve le logo illuminé de Lexus. Donc, c'est un peu tape à l'œil aussi. Les phares sont très effilés et trônent au-dessus de bandes foncées qui font un contraste assez intéressant. Visuellement, c'est très beau. Évidemment, comme c'est la mode en ce moment, un long toit panoramique se rend jusqu'au bout du haillon où les feux arrière sont une seule longue bande lumineuse.
C'est très épuré.
C'est extrêmement joli. Définitivement, c'est un beau véhicule.
C'est ce qui est joli. Bon, évidemment, c'est un concept pour le moment.
Exact. Et c'est
très
apparent.
Sous cette forme-là.
C'est très apparent, surtout à l'intérieur. Là, on a une espèce de volant de jeu vidéo des années 80 qui n'a aucun bon sens si jamais un véhicule est mis sur la route avec ça. On imagine qu'on va avoir droit à quelque chose d'un peu plus rationnel de ce côté-là. Et on ne parle pas beaucoup de la mécanique. En fait, on n'en parle pas du tout. Ce qu'on explique dans le cas du prototype, c'est qu'on testerait une intelligence artificielle embarquée qui ne serait pas nécessairement aussi sophistiquée qu'on peut l'imaginer. Là, c'est pas une affaire sortie complètement du futur. Ce serait en fait une automatisation de certaines tâches, comme par exemple prédire à destination et offrir la possibilité de prendre des rendez-vous si on sort au restaurant.
Mercedes va dans ce sens-là.
Exactement.
BMW va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ajoute, on voit toujours AI, Artificial Intelligence.
Ouais.
C'est un système qui s'adapte aux habitudes du conducteur. Donc, si vous partez tous les jours du travail pour aller à la maison, vous allez probablement à peu près toujours prendre la même route. Si vous vous arrêtez habituellement en route pour aller faire un peu d'épicerie pour la maison ou que vous arrêtez vous prendre un café le matin avant d'aller au travail, la voiture va vous rappeler, veux-tu un café un matin?
C'est même d'aller plus loin que ça, c'est de le faire, de commander le café.
De commander le café en chemin.
De faire l'étape suivante. Et cette espèce d'intelligence artificielle prédictive-là, c'est ce qu'on a dans l'informatique, dans les technos, c'est ce qu'on prédit comme étant la prochaine évolution de ces systèmes-là. Donc, Lexus reste... Je ne vais pas dire très rationnel, mais est assez modeste dans son avancée là-dessus par rapport à ce qui est possible d'imaginer, surtout sur un prototype, qui peut être assez pété. Là, souvent, on peut voir des affaires là-dessus qui n'ont aucun bon sens. Détail intéressant, mécanique, il n'y a pas vraiment de déformation, mais il y a une chose qui est le fun, c'est que Lexus a parlé d'un rouage intégral où chacune des roues serait animée de façon indépendante pour offrir l'équivalent électrique d'une espèce
d'un moteur roue? Moteur essieu, moteur roue, parce que si t'as quatre moteurs, ça veut dire que t'as quatre roues. Ça serait un moteur roue, parce que généralement, les moteurs essieux, t'en as un en avant, un en arrière.
Il a été mentionné qu'il serait possible de faire l'équivalent d'une vectorisation de couple, le fameux torque vectoring.
Ouais, OK.
Ce qui est pas facile à dire en français, qui permet justement de gérer la puissance aux roues selon les conditions, mais chacune des roues indépendamment. Est-ce que ce sera quatre moteurs roues, c'est à voir, mais... Regarde, on est rendu là. C'est ce qu'on va voir dans les prochains... en tout cas, voir un véhicule électrique sur la route très prochainement chez Lexus. Ça va ressembler un petit peu à ça. Ça va être à suivre de ce côté-là.
Dans un autre domaine, en fait, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles a émis un communiqué en début de semaine qui donnait les résultats officiels des ventes mondiales d'automobiles en 2020.
Ouais.
Il y a eu 77,6 millions d'unités construites en 2020 à travers le monde. Comparativement à 92,2 millions en 2019. Ce qui veut dire qu'on a eu une baisse de 15,8%
de la production.
De la construction de modèles.
Mm-hmm.
Considérant que à peu près tout a été fermé 3 mois, c'est pas si mal. On s'attendait à 20 et 25% et même certains allaient à 30. Il y avait eu certains scénarios catastrophes. C'est quand même une des plus graves crises de l'histoire automobile, puis les séquelles, on les vit encore. On a encore une pénurie de pièces, puces. Il y a des modèles qui ont de la misère à construire au moment où
on
se
parle. Manque de moteur, manque de batterie.
Exactement. Sauf que, ce qu'on dit, c'est que malgré tout, on s'en est bien sorti. Les chiffres sont pas égaux partout. On dit que la moyenne en Asie est de 10,2%, donc sous la moyenne mondiale, alors que l'Amérique du Nord est plus autour de 21%. Donc, au-dessus de la moyenne mondiale. Au niveau des chiffres de vente, le total ou le recul mondial est autour de 12%. Donc, on s'en est quand même pas trop mal sorti, considérant ce qu'on avait là entre les mains. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Là, évidemment, en 2021, on prévoyait une année où on allait se relancer. Le problème, c'est que là, avec tous les manques de pièces qu'on a en ce moment, d'un travers à l'autre de l'industrie, on est assez mal placé pour voir comment on va réussir à remettre tout ça en place.
Donc, on semble avoir un horizon plus 2023-2025 en termes de...
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment un virage aussi dans les produits offerts. Ils en profitent pour faire le ménage. Donc,
Exactement. Donc, puis vois-tu, on parlait de retard. Hyundai a annoncé pas plus tard qu'il y a quelques jours qu'on aurait des retards de production pour la IONIQ 5. On en avait parlé
déjà,
à l'émission. Parce que justement, peu ces pièces là mises ensemble, on devait produire 10 000 véhicules pour le mois d'avril, donc le mois qui s'en vient, et on va en produire à peu près 2 600. Pour donner une idée.
C'est une grosse différence.
C'est une très grosse différence. On devait commencer pour l'Europe, on retarde ça. Donc là, pour le moment, on ne sait pas quand tout ça va arriver en Amérique du Nord. C'est des manques qu'il y a un peu partout qui font en sorte que, bon, on est encore en retard là-dessus. De ton côté, autre nouvelle?
Ben, écoute, apparemment, j'ai de la suite dans les idées. Toyota a pas une nouvelle, mais pourrait, en fait, annoncer prochainement un partenariat avec Tesla pour développer un VUS compact électrique conjoint. En fait, la plateforme, d'ailleurs, ce qui pourrait devenir un VUS électrique tant chez Toyota que chez Tesla.
OK.
Rumeur qui vient du quotidien coréen Chosun Ilbo. Et là, pardonnez, mon coréen est un petit peu rouillé.
Mais le mien est pas rouillé, il est inexistant.
Voilà. Bon, en tout cas, le quotidien en question aurait découvert que Tesla et Toyota tiennent des discussions depuis quelques mois déjà et qu'ils pourraient annoncer un partenariat pour justement, disons, tirer le meilleur des deux groupes, des deux fabricants pour créer un véhicule conjoint de petit format. Toyota s'occuperait de la conception, de l'architecture de base et évidemment de la capacité de production éventuelle. Du côté de Tesla, on s'occuperait évidemment de ce qui fait la qualité des produits Tesla, tout ce qui est électrique, électronique, connectivité aussi, mise à jour à distance, tout ça. L'objectif, je pense, et si on lit entre les lignes de ce que le Chosun Ilbo publie, c'est qu'il pourrait avoir un VUS compact de 25 000 $ américains ou moins sur le marché dans les prochaines années qui serait signé Tesla. Elon Musk, en novembre dernier, disait que c'était son prochain objectif pour Tesla, de mettre en marché un petit VUS qui pourrait ou ne pourrait pas être le modèle 2, donc une version allégée du modèle Y, si on veut, ou du modèle 3, d'ici 2023. Donc, ça va être à suivre. Mais ce serait, écoute, dans le contexte actuel où on voit justement des pénuries de gauche à droite, des plateformes conjointes comme ça, ont tout plein de sens, sont très logiques dans un contexte d'industrie mondiale. Et ça pourrait être aussi fabriqué en Chine. Donc, tout ça mis ensemble, on pourra avoir un véhicule très abordable électrique signé Tesla ou Toyota d'ici... écoute, 2023, c'est bientôt, là.
C'est dans un an et demi, à peine.
Exactement, dans 18 mois, donc à suivre.
En 30 secondes, une dernière nouvelle, parce que je veux juste le souligner, Bentley a fabriqué son 200 millième modèle.
OK.
Les gens vont me dire 200 000, ouais. Ça existe depuis 1919. Donc, en 102 ans, on a fabriqué 200 000 modèles. C'est à peu près ce que Toyota fait dans une semaine. Pour vous donner une idée là, d'ordre de grandeur.
Ouais, une Bentley mais bon, et une Corolla n'ont pas exactement la même
c'est
prestige.
Ça. Mais non, on a souligné l'événement. Je disais, okay, ça va à peine. C'est un, on dit en anglais, un milestone, mais c'est un jalon qui est quand même important pour la compagnie. Mm-hmm. Alors, on prend quelques minutes. On va aux petites publicités. Puis après, on revient avec Bernard Guy de chez BMW.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Nous sommes de retour. Je vous rappelle que le balado « Ça tient la route » peut être écouté sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple, Google, sur le site du 98.5 FM, dans la section « Balado ». Évidemment, sur annuelauto.ca, le site de l'annuel de l'automobile, où je fais une mise à jour comme ça chaque semaine. Notre prochaine invitée chez BRP, Produire et Créatif. On a annoncé, Alain, on le disait en début d'émission la semaine dernière, qu'on allait procéder à une électrification des produits récréatifs chez Bombardier. Mm-hmm. Et pour en parler, on a Monsieur Bernard Guy.
Exactement, Bernard Guy, qui est vice-président principal stratégie globale des produits chez BRP. Monsieur Guy, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une grosse annonce quand même pour BRP. Là, on parle d'électrifier ou d'offrir un véhicule électrique dans toutes les gammes de produits de BRP. Ça veut dire on part de la Spider, l'espèce de moto à trois roues, jusqu'à la moto marine et la motoneige. Est-ce que c'est exact?
Oui, en fait, c'est un plan, c'est un gros plan, c'est tout un projet sur 5 ans pour offrir des options électriques dans nos 8 gammes de produits. Alors, on parle de motoneige, skidoo et lynx, de motomarine, sidoo, de VTT et de véhicules côte à côte Can-Am. Évidemment, des véhicules trois roues Can-Am, Ryker et Spider, mais aussi de nos bateaux de pêche, Alumacraft, les pontons Manitou et les karts.
OK, fait que on fait le tour pour le vrai,
ça
là.
Fait beaucoup de véhicules.
Oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est la raison pour laquelle c'est une aussi grosse nouvelle, dans le sens où c'est pas juste d'électrifier un modèle, d'en faire un, puis c'est vraiment là de développer nos technologies électriques pour réussir justement à électrifier de façon viable toutes nos lignes de produits.
Quand vous dites vos technologies électriques, c'est effectivement vrai, ça va être développé par BRP, chez BRP. Vous investissez 300 millions de dollars, et si j'ai bien compris, ça va être des technologies développées et fabriquées au Québec aussi?
Mais en fait, une partie de cet investissement-là, de 300 millions de dollars, en fait 60%, va être investi au Québec. Certaines fabrications pourraient être au Québec, certaines ailleurs, mais on parle là, d'effectivement un gros projet à forte incidence au Québec, là, plus de 100 emplois créés, spécialisés au Québec sur 160 emplois spécialisés total. C'est des beaux projets, et puis oui, on développe notre propre technologie du chargeur embarqué à aller jusqu'au moteur en passant par la batterie et l'onduleur. Alors, c'est définitivement là, un gros projet pour BRP.
C'est une question, c'est un détail, mais vous dites parler de chargeur. Les véhicules électriques, les voitures électriques, en ce moment, on a un chargeur pour ça, qu'on peut installer à la maison, il y a des réseaux électriques, tout ça. Est-ce que ça va être le même principe pour charger des véhicules récréatifs électriques? C'est la même espèce de prise, là?
Exactement, oui, c'est absolument la même chose. Il y a un chargeur embarqué dans le véhicule pour pouvoir permettre le chargement. Et il y a évidemment le chargeur que vous pouvez ajouter à votre domicile. Ça va être exactement la même chose. Là,
j'ai 1000 questions qui me viennent en tête, Monsieur Guy. Là, on parle évidemment de recharge. Est-ce qu'on a des idées de l'autonomie? Est-ce que ces véhicules électriques-là vont côtoyer les véhicules avec moteur à essence qui vont encore être disponibles, j'imagine? Quel pourcentage de véhicules électriques veut-on amener sur le marché versus les moteurs conventionnels? On a quoi comme plan, disons, sur le 5 à 6 prochaines années à venir?
Oui, c'est une très bonne question. Et l'adoption, là, comme on dit, là, par les clients, ça va rester à voir ma boule de cristal est aussi bonne, ni plus ni moins que la vôtre. On va voir, parce que surtout dans le cas de l'électrification de produits récréatifs, c'est pas tous les segments de produits qu'on fait, les segments de marché ou les applications qu'on a qui sont propices à l'électrification. Donc, il y en a certaines, ça va être plus facile, puis il devrait avoir une meilleure adoption. Mais il y en a d'autres là, qu'on peut tout de suite imaginer là, qui vont être beaucoup difficiles à électrifier. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à couvrir tout le marché. C'est pour ça que pour nous, cette offre électrique-là, Et au-delà.
Ouais, parce que je pense aux produits, des moteurs de bateaux, par exemple, ou des produits marins où on sait que la quantité d'énergie déployée pour faire avancer ces véhicules-là est très importante et que des véhicules électriques, on a une autonomie qui est vraiment restreinte, là. Donc, ça peut être un obstacle pour pas dire un problème, mais c'est un obstacle assez important à contourner, là.
Exact. En fait, il y en a deux principaux. Là, c'est les dimensions et le poids de la batterie. Le poids de la batterie, tu vois, je vous donnerai un autre exemple, le motoneige en neige profonde. On dépense énormément d'énergie pour faire avancer une motoneige en neige profonde. Même que les gens qui pratiquent le sport ou qui doivent y aller en neige profonde par obligation, ça emporte parfois de l'essence additionnelle parce qu'ils n'ont pas d'endroit où pouvoir aller à la station-service.
Exact.
Imaginez pour ces gens-là, c'est sûr là, qu'une version électrique ne serait probablement pas idéale. Donc, c'est pour ça que je parlais que...
À moins qu'on dise aux gens, le quatrième boulot à gauche, il va y avoir une prise à côté.
Un réseau de bornes dans le bois.
On travaille fort là-dessus, mais on n'a pas réussi encore.
Il y a des fabricants, évidemment, il y a Taiga Motors qui est connu à Montréal, qui commence à faire des motoneiges et des moteurs marines électriques. Il y a Polaris avec Zero Motorcycles qui ont annoncé qu'eux allaient avoir un VTT électrique à la fin de l'année. Est-ce que vous prévoyez déjà une stratégie pour vous démarquer? Est-ce que vos véhicules vont être plus performants, plus abordables? Comment vous vous situez par rapport à ces, disons, ces rivaux émergents-là?
Sans révéler là, de spécifications à ce stade-ci, mais je peux quand même vous dire, là, ça fait plus de 50 ans là, qu'on est un leader là, dans les produits motorisés. Alors, compagnie innovante, on va continuer de se démarquer en écoutant nos clients, puis en s'assurant de combler leurs besoins. Alors définitivement, là, on a évidemment quelques cartes dans notre jeu, mais et malheureusement, je pourrais pas toutes les voler aujourd'hui.
Ah. Bon, est-ce qu'on peut au moins savoir quel produit devrait être électrifié en premier, même si on n'a pas de date?
Même pas.
Ah ben, j'essayais d'en tirer un petit bout.
Je vais poser la même question d'une autre forme. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'un Spider électrique. J'imagine que c'est dans les plans prochainement, ça aussi, d'avoir un Can-Am là, qu'on passe sur la route sans...
C'est sûr que quand on dit qu'on va électrifier, on va offrir des modèles électriques dans chacune de nos gammes de produits, ça inclut le 3-roues Can-Am. Donc c'est sûr que c'en est un qui en fait partie. On a fait plusieurs prototypes. Certains avaient été révélés publiquement d'ailleurs. Mais là, on est rendu là à la phase d'industrialisation et de commercialisation prochaine dans les 5 prochaines années. C'est sûr que c'est une ligne de produits qui va y passer.
Ça va être à suivre. Évidemment, l'année 2020 a été assez profitable pour BRP et les fabricants de véhicules récréatifs en général. Je ne sais pas si vous attendiez ça, surtout vu le contexte de 2020. Est-ce que 2021 s'annonce comme une grosse année aussi?
2021 s'annonce aussi comme étant une grosse année, effectivement. La demande est très forte. Je pense que les gens ont réalisé tout le plaisir forcé, mais le plaisir du phénomène qu'on a appelé le staycation, le stay-at-home vacation. Les gens découvrent les joies de se promener en véhicule.
Ouais, puis je pense que l'argent qu'on n'investit pas dans des vacances pour aller quelque part, les gens l'ont investi dans des produits pour rester à la maison. Je pense que c'est ça.
C'est sûr que ça s'est passé. Et ça fait découvrir les produits récréatifs motorisés à plusieurs personnes. On a beaucoup de nouveaux clients qui découvrent ces sports-là. Et puis, c'est tant mieux, c'est bien.
Ouais. Ben écoutez, Monsieur Bernard Guy, merci beaucoup pour votre temps. Puis promettez-nous que quand vous ferez une annonce officielle pour un produit, dites-nous-les. On en reparlera à l'émission. Fait que là, on peut spéculer.
Les clés. Oui, c'est ça que je veux.
Ça, on peut spéculer, mais j'ai hâte d'en entendre parler plus en détail. Un gros merci à vous, Monsieur Guy.
Ça va me faire plaisir. Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Alors, c'était à Bernard Guy, qui est de Produits Récréatifs Bombardier.
Sido électrique, là, ça m'intéresse.
Sido électrique, le Spiker, je pense que t'as pas mal visé dedans. Là. Après moi, ça serait un des premiers modèles en vue parce que c'est un de ceux qui s'adapte probablement le mieux à l'électrification.
Ouais. BRP a récemment acheté un fabricant de moteurs électriques qui est pas loin de la moto.
Ah, donc raison de
donc,
plus.
Donc, il y a une base. Ça va être à suivre.
On va à la pause et tout de suite après la pause, on arrive avec notre deuxième invité qui sera Nicolas Ryan du CA Hockey.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Toujours pour rester près de l'actualité, on poursuit avec un autre invité. Il est porte-parole du CA Québec qui a sorti une étude de cette semaine qui nous dit que les routes du Québec sont pires qu'ailleurs. Bon, on le savait déjà.
Ça date de 1974,
ce communiqué. C'est ça. Ouais. C'est un communiqué d'il y a 40 ans et qui est encore vrai aujourd'hui. Non, mais ce qu'on aime de ce communiqué-là, c'est qu'on a des preuves à l'appui. Et ça, c'est intéressant. Donc, avec nous, c'est Nicolas Ryan, qui est porte-parole du CA Québec à Montréal. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Alors, parlez-nous justement de cette étude que vous avez faite, en fait, qui ramène quelques chiffres intéressants, comme le coût annuel moyen des routes en mauvais état par véhicule coûte plus cher aux Québécois qu'aux autres Canadiens, entre autres.
Exactement. C'est souvent, on voyait des études par le passé là, qui chiffraient, par exemple, le coût de reconstruction des routes à travers le pays, à travers la province. Parce que c'est des chiffres qu'on voyait de même. On n'avait jamais vraiment vu avant combien ça coûtait en supplément aux automobilistes, donc aux Québécois, aux Canadiens, combien ils sortaient de leur poche à chaque année en raison de l'état des mauvaises routes. Et malheureusement, pour les Québécois, là, c'est la première position du podium. J'ai quasiment envie de dire la première et la deuxième position mis ensemble. Ça nous coûte 1,4 milliard collectivement au Québec à chaque année.
Et ça, c'est en supplément, là. Ça, c'est pas...
En supplément.
Oui, oui. Par-dessus ce que ça vous coûte déjà pour faire l'entretien de votre véhicule, il faut bien le souligner.
Vous avez votre paiement de véhicule à faire, vous avez vos assurances à payer, vous avez l'entretien, le changement de pneus, le changement d'huile, name it. c'est 258 $ de plus en moyenne à chaque année. Donc, quand on regarde que le parc automobile au Québec, là, environ 8 ans de date, ouais, en moyenne, c'est 2 000 $ que ça vous a coûté là, au fil de ces 8 années-là que vous auriez pu utiliser pour faire autre chose.
Et là, il faut dire que la moyenne nationale canadienne est à 126 $. Donc, pour vous situer, ouais, là, on dépasse du double ou pratiquement... Ah oui, du double. Parce que
On dépasse du double, mais en plus de ça, c'est que le Québec monte cette moyenne-là aussi à la hausse.
Ben, c'est clair. $
inclut le montant du Québec. Donc, c'est plus du double. Et en effet, quand on regarde nos voisins Ontario, par exemple, sont à 88 $.
Vous me volez les mots de la bouche, j'allais dire. Quand on va en Ontario, qu'on trouve les routes plus belles. Mm-hmm. Vous avez absolument raison. Sont plus belles, les routes en Ontario. Ouais. Et vous avez aussi fait une étude, ben, dans cette étude-là, sur les 113 000 kilomètres de routes au Québec, mm-hmm, il y en a 51% de ces routes-là qui sont en mauvais état.
Oui, ben exactement. Donc, 51% en fait, qui sont soit en très mauvais état, en mauvais état ou en état qualifié de passable. Et on s'entend que passable, là, c'est le minimum qu'on peut espérer sur une route au Québec en soi. Donc, 51% de ces routes-là.
Autrement dit, vous ne crèverez pas un pneu dans un nid de poule, mais pas loin.
Mais peut-être, c'est ça. Peut-être sur une route passable, ça peut vous arriver. On ne parle pas d'une route, justement, qui est bonne ou très bonne.
Non,
l'étude
non.
Aussi, l'étude demeure assez conservatrice dans son essence, dans le sens où on va prendre les routes, justement, en mauvais état. On va juste les contrebalancer par rapport à une route qui n'est pas en très bon état. On demande juste une route en bon état.
Puis, est-ce qu'on est capable d'expliquer, est-ce qu'il y a des explications au fait pourquoi, chez nous, les routes sont en si mauvais état? Qu'est-ce qu'on a fait, ou plutôt pas fait.
Ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter des routes de même. Ça. C'est ça que tu veux savoir.
C'est la question à 1,4 milliard de dollars au Québec.
Ouais, exact. C'est ça.
Mais en ce moment, c'est ça. En ce moment, nous, l'étude, c'est sûr, ce qu'elle a fait, elle a pris une photo de la situation en ce moment. Donc, elle n'a pas nécessairement, là, on n'a pas creusé justement dans les causes. Nous, à CRA Québec, avec notre campagne des Péroutes qui s'en vient en 2021, on a pris une pause l'an dernier.
Ouais.
On a pris la peine quand même de demander ces questions-là à des experts. Là, puis on attend encore quelques réponses. Puis on espère pouvoir donner un aperçu justement d'une réponse. Est-ce que c'est la faute à l'enrobé bitumineux qu'on utilise? Est-ce que c'est la faute à notre climat? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas investi assez dans nos routes dans les 10, 15, 20, 40 dernières années? Il y a plusieurs questions qu'on pose comme ça à laquelle on veut des réponses. Mais là, nous, ce qu'on propose, quelques pistes de solutions quand même.
Voilà.
Et,
oui.
Quelles sont-elles?
C'est ça, une qui est très, très intéressante, là. Puis, je lisais une étude à ce sujet-là. C'est qu'un dollar qui est mis dans la préservation d'une chaussée qui est bonne. Donc, au lieu de mettre de l'argent, en fait, pour refaire des routes qui sont déjà très mauvaises ou mauvaises, un dollar d'investi dans la préservation d'une chaussée va éviter 6 à 10 $ d'éventuelles réparations plus majeures. Donc.
Ouais. Puis, un, ça permet de garder la route plus longtemps. Et deux, ben, évidemment, ça coûte moins cher parce qu'on dit qu'une route qui est à refaire coûte 10 fois le prix d'une route qu'on entretient régulièrement et qu'on laisse en bon état, effectivement.
En ce moment, mais c'est sûr aussi, il y a des routes qu'on n'a pas le choix en ce moment de refaire. Puis c'est ça qui est malheureux. C'est probablement qu'il y a une grosse partie du budget qui est dans ces routes-là où on n'a plus le choix.
Ben oui, c'est clair.
Parmi les solutions, une autre chose, c'est justement de la priorisation stratégique, donc d'investir dans les routes qui sont soit très passantes ou stratégiquement importante, par exemple pour le transport des marchandises ou des choses comme ça. À ce moment-là, c'est des investissements qui vont être plus élevés. On n'a qu'à penser, par exemple, au pont Champlain. On en a reconstruit un nouveau juste à côté, mais fort probablement que les véhicules qui roulent sur le nouveau pont en ce moment, ils ont moins de dommages que ceux qui roulaient sur le vieux pont qui, lui, était rendu... assez dangereux. Là.
Vous en parlerez aux mécaniciens de la Rive-Sud, ils vont vous le dire, eux autres. parce que bon, eux autres, évidemment, sont très heureux qu'on ait des routes en mauvais état, parce que c'est de la bonne business, entre parenthèses.
Ouais. Ben, ça soulève une bonne question. Est-ce qu'en tant qu'automobiliste, il y a quelque chose qu'on peut faire pour se prémunir des dangers de la route mal chaussée, disons?
Ben, c'est sûr, c'est de faire attention. Puis en bout de ligne aussi, c'est qu'une route en mauvais état, ça va se ressentir, oui, sur la qualité de roulement, ça va se ressentir sur le confort. Mais une route en mauvais état, pour nous, c'est surtout inquiétant pour la sécurité routière.
Exact.
Alors, quelqu'un qui veut, on a beau faire très attention, si le nid de poule qu'on n'attend pas, il est devant nous, qu'on brise un pneu, puis qu'on perd le contrôle du véhicule, puis qu'on atterrit sur le trottoir, ben à ce moment-là, on peut peut-être mettre des piétons en danger, on peut peut-être mettre des cyclistes en danger aussi. Même les cyclistes qui roulent sur nos voies, ça peut être très dangereux pour eux. Là. Une poule en vélo, ça fait pas mal plus mal, puis on n'a pas la chance de se protéger lorsqu'on tombe. Fait que la question de la sécurité routière, ça va au-delà justement de ce coût-là pour les automobilistes. Mm-hmm. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup aussi. Là.
En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé, Nicolas Ryan. On va puis rappelez-nous quand vous aurez d'autres nouvelles comme celle-là, parce que ça alimente un débat d'une part et ça nous confirme que finalement c'est vrai que nos routes sont pas en bien bon état.
Plus on en parle, plus qu'on peut régler le problème.
Ben exactement. Puis si tu peux me permettre, nous, à CA Québec, on a notre campagne des payroutes qui s'en vient là,
oui.
au payroutes.com. C'est le moment là, d'aller dénoncer déjà là, les payroutes dans vos secteurs différents. Donc, peu importe la région au Québec où vous êtes, vous allez payroute.com, vous pouvez soumettre là, votre candidat pour la payroute ou le pire tronçon. Et c'est quelque chose qui marche année après année. Nous, 90% des routes qui ont fait notre palmarès dans les dernières années ont fini par être soit réparées, reconstruites en entier ou du moins réparées. Et ça permet justement d'assurer peut-être des routes un peu plus sécuritaires dans certaines municipalités ou sur les routes du ministère des Transports. Mais c'est le moment là, d'aller voter. On devrait en savoir un peu plus. Là,
donc, payroute avec un S ou...
Avec un S.
OK, oui, payroute avec un S. .com. Donc, les gens peuvent aller voter. Puis évidemment, on compile les résultats. Puis vous allez avoir, évidemment, un palmarès des endroits les moins fréquentables au Québec.
C'est ça? Exactement. Ça nous permet de faire le pont avec les autorités compétentes aussi là, pour leur dire... Mais,
oui, parce que...
Citoyenne, ça marche.
Je sais que par le passé, j'étais allé dans une des routes des Laurentides qui avait gagné le palmarès il y a plusieurs années. Puis l'année suivante, on avait effectivement refait la route. C'était dangereux. Là. C'était dangereux. On pouvait pas rouler à une vitesse normale sur cette route-là. Là. Ben, merci beaucoup, Nicolas Ryan. C'était très gentil. Alors, c'était Nicolas Ryan qui est porte-parole du CA Québec qui nous parlait évidemment de l'état de nos routes. On se plaint toujours que nos routes sont pas bonnes et qu'elles sont pas belles. Ben, c'est vrai.
On
n'a pas tard. Alain, il nous reste à peu près 10 minutes pour faire nos essais routiers avant la fin de l'émission. Tu me parlais en entrevue, en début de l'émission tantôt, du Kia Telluride.
Exactement.
Ben, c'est le temps. Parle-nous
en mode express.
En mode express.
Le Telluride, qui est le gros VUS de Kia. Écoute, honnêtement, il a été lancé en 2020. Ça m'a un peu pris de court. Tu sais, on a vu les annonces. Moi, la première fois que j'ai vu ce véhicule-là, c'était des annonces au Super Bowl il y a 2 ans.
D'ailleurs, c'est là qu'on l'a lancé officiellement.
Exactement. Ouais. Et déjà, on imaginait que ça allait avoir un beau succès aux États-Unis. C'était quand même incertain au Québec, où évidemment, on a toujours un certain ascendant négatif par rapport au gros VUS. Mais ce véhicule-là, ainsi que le Hyundai Palisade, avec lequel il partage à peu près tout, sauf
c'est
le look.
C'est son cousin.
Ont rapidement trouvé leur place sur nos routes. Malgré, c'est ça, la réputation négative peut-être des gros VUS, mais ça remplace d'une certaine façon les fourgonnettes parce que c'est des véhicules 7 ou 8 passagers.
Ben, c'est une alternative intéressante. Et moi, ce que je trouve le fun dans ce véhicule-là, c'est qu'on n'a jamais l'impression de conduire un gros véhicule.
Exactement.
Et je pense que ça a conquis beaucoup de gens qui ont toujours peur du format. Mm-hmm. Puis tu te retrouves au volant, puis mon Dieu, c'est maniable.
Ouais, puis c'est confortable,
ça va bien, la visibilité est bonne, la position de conduite est excellente. Donc, on oublie un peu le format du véhicule quand on est au volant.
On oublie aussi la marque parce qu'on parle d'un créneau où Honda, Toyota, Ford et Chevrolet ont des produits depuis longtemps qui sont très reconnus. Et Kia, on n'a aucune gêne à imaginer que Kia s'en tire mieux que ça.
Kia s'en tire mieux en ce moment, mais Kia a toujours gardé une recette que moi j'aime. C'est-à-dire qu'on offre toujours beaucoup d'équipements pour le prix.
Exactement.
Et on a encore la meilleure garantie sur le marché en ce moment. Mettons Mitsubishi avec eux autres, mais tous les autres sont 2 ans plus loin. Là. Alors ça, c'est intéressant. Là.
Exactement. La grosse nouveauté cette année pour le Telluride, c'est l'édition nocturne pour ceux qui veulent quelque chose qui a un petit peu plus de gueule. C'est une calandre et des roues noires avec un paquet d'accessoires qui sont plus sombres. Ça fait monter le prix de détail à 58 000 $ quand même, ce qui n'est pas rien. Quand on fait le bilan, les différents modèles, ça commence à 48 000 $ avec le modèle EX de base. Et quand on monte en grade, on a le droit à une meilleure sono, on a le droit à des roues de 20 pouces, des sièges en cuir, des choses comme ça. C'est pas exactement abordable, mais ça reste dans la moyenne des prix pour ce genre de véhicule-là. Bon, évidemment, on le disait, c'est pas un véhicule sportif, c'est un véhicule plus utilitaire, spacieux, accueillant pour les adultes. D'ailleurs, détail intéressant, c'est un véhicule très carré. Hein, on le voit de l'extérieur, le design est très très cubique, si on veut. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espace, même sur la deuxième banquette à l'arrière pour des adultes qui peuvent s'y asseoir et pas être trop serré. Ce qui est pas toujours réussi dans le cas de VUS qui utilise un peu le coffre pour créer de la place pour les occupants, mais qui est plus un compromis, une banquette d'urgence, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, on a un peu plus d'espace. Donc, une famille peut s'asseoir à bord. Notez que les versions les plus équipées ont moins de place parce que de base, on a 2 banquettes, donc 8 places en principe. Les versions plus équipées de drop. J'allais sortir un bel anglicisme. Échange la banquette du milieu pour deux sièges baquets. C'est surtout utile si vous avez des sièges pour bébé, entre autres, là, d'avoir des baquets, parce que ça permet plus facilement de les clipper sans avoir de chicane avec les enfants, si c'est votre genre de situation. Ben, à côté équipement, on le dit, hein, c'est très équipé. On a le droit à toute l'aide électronique qu'on peut imaginer. Qui a réussi à combiner un régulateur de vitesse adaptatif et un détecteur de ligne au sol pour créer une espèce de... Je ne vais pas dire une conduite autonome, on ne peut pas dire ça, mais une aide à la conduite très, très avancée qui permet de tenir le volant d'une seule main, de garder l'attention sur la route, mais quand même de ne pas avoir à gérer, surtout sur l'autoroute et dans une situation où il y a beaucoup de circulation, pas avoir à gérer les chaque accélération, freinage, tout ça. C'est assez, ça rend la conduite très reposante. Sous le capot, ben là, c'est ça. On aurait pu. Moi, personnellement, je veux dire. On a une bonne combinaison mécanique. On a un V6 de 3,8 litres avec une boîte de 8 rapports.
Il y a personne qui cherche à acheter un moteur qui va arracher une montagne dans ce genre de véhicule-là. Mm-hmm. Ce que les gens veulent, c'est que ce soit silencieux, qu'il y ait suffisamment de puissance et qu'on puisse amener 5000 livres si on l'a remorqué.
Je pense que l'élément clé là-dedans, c'est la boîte à rapport qui est vraiment efficace. Celle à 8 rapports. On la retrouve ailleurs là, dans le groupe Hyundai, dans le groupe Kia. Elle fait un passage de rapport en douceur. Elle est très réactive malgré tout. Permet de consommer, de garder une consommation assez raisonnable là, avec le V6 qui est quand même pas le moins gourmand, disons. On a une consommation environ de 12 litres au 100 km en moyenne. C'est dans la moyenne de ce créneau-là. Je sais pas, excitant. Là, on va pas dire, wow, ils viennent de transformer complètement l'univers, mais c'est acceptable pour un véhicule de cette dimension-là.
Absolument, parce qu'on a quand même un gros véhicule entre les mains.
Exactement. C'est un gros véhicule et justement, il faut s'en servir comme tel. C'est-à-dire que si on voyage seul sur l'autoroute, toujours à bord d'un véhicule comme celui-là, il y a vraiment on gaspille de l'énergie, de l'espace sans bon sens. Ça, c'est évidemment là où le bas blesse, si on veut. Mais dans l'ensemble, le Telluride est un véhicule facilement recommandable, peut-être un des meilleurs dans sa catégorie à l'heure actuelle. Reste à voir si la catégorie, elle, est recommandable, parce qu'on a tendance à exagérer nos besoins et acheter toujours trop gros. Mais si vous avez une grosse famille, si vous êtes un coach de soccer, n'importe quoi, ça commence, on déconfine les sports et vous allez voir, on commence à traîner les poches de ballon, ces choses-là. Ben, c'est un véhicule qui écoute.
Et ce modèle-là, le vent dans les voiles, on le voit, là, ça se vend extrêmement bien. On a le Sorento dont tu as parlé, qu'on a remis sur le marché. On le fait à l'image du Telluride, le nouveau modèle, parce que le Telluride fonctionne extrêmement bien. Donc, on voit que ce modèle-là va bien.
J'ai peur de voir où va se situer le Carnival.
Oui, parce qu'on a vu des photos, c'est le Carnival.
Qui se veut un peu véhicule familial.
Qui se veut, en fait, une fourgonnette sans en être une, parce que ça remplace le Sedona, qui est une fourgonnette, mais ça n'a pas nécessairement l'air d'une fourgonnette. Alors, j'ai hâte de voir comment on va vendre ça.
Disons qu'on se pile sur les orteils un petit peu dans la gamme de VUS.
Je trouve.
Mais le Telluride, si vous êtes pressé, c'est un véhicule qui est tout à fait recommandable.
Absolument. Moi, je vais rester dans les VUS, dans un modèle qui a fait la renommée de Lexus, le RX.
Puis moi,
j'ai eu à l'essai le RX 450.
Surtout hybride, exactement.
Qui est un modèle intéressant. Bon, je vous le dis tout de suite, le V6 à cycle Atkinson, que dans ce modèle-là, n'est pas un foudre de guerre. Hein, on va le dire comme ça. Je cite Marc Lachapelle, que je salue en passant. J'emploie son expression de temps en temps. C'est un collègue journaliste à nous qui prend cette expression-là pour dire que, bon, oui, c'est intéressant. Il y a un peu plus de puissance parce qu'on ajoute des moteurs électriques. On arrive à un peu plus de 300 chevaux, là, 308 chevaux pour être exact. Mais c'est un moteur qui travaille en douceur. C'est ça qu'il faut retenir. La variante hybride a le grand avantage d'être peu gourmand. On fait là du 8-9 litres au 100 avec ça pour un véhicule de ce format-là.
C'est quoi la troisième, quatrième génération de groupe hybride pour ce VUS-là?
C'est raffiné, modèle qui est raffiné, je pense, c'est probablement le mot qui résume le mieux ça. Il y a deux ans, on a sorti des versions allongées des modèles RX avec une troisième banquette, donc on peut même aller chercher... Bon, moi, je l'appelle un 5+2. On sera honnête, là, derrière, toi et moi, là, on trouverait le voyage un peu long, si on va quelque part.
Ouais, ça dépend.
Mais c'est un exact. T'sais, si vous avez des enfants puis il y a deux amis à l'école qui veulent s'installer en arrière à la fin de la journée scolaire, bon, ils n'auront pas de problème. Là. À moins que votre ado ait 17 ans, là, mais on parle là, des enfants d'âge primaire, il n'y aura pas de problème. Alors donc, ça, c'est intéressant. Évidemment, raffinement, qualité de finition, silence de roulement, ce sont tous des qualités qu'on peut attribuer à ce modèle-là.
Est-ce que leur système multimédia s'est amélioré?
Là, on parle des choses moins intéressantes.
Ah, okay,
écoute, On a maintenant une alternative, c'est-à-dire que la fameuse tablette tactile est toujours là.
Pavé, machin, ouais.
Moi, tous les pavés, là, Toyota, Acura, nomme-les.
Tout ce qui ressemble à une souris d'ordinateur, pas d'affaire, bon, rien. Je suis entièrement d'accord.
Ça n'a pas d'affaire dans une voiture parce que vous n'avez pas le choix de concentrer votre regard pour faire n'importe quelle opération et c'est un fiasco à chaque fois. Heureusement, on peut contourner ça maintenant. Donc, il y a un moyen de pas l'utiliser. Ça, au moins, ça donne la note de passage pour être capable d'utiliser d'autres méthodes. Il y a un système quatre roues motrices qui est intéressant, qui ne fonctionne pas comme les systèmes quatre roues motrices mécaniques. Puis c'est drôle parce qu'on est allé à un événement avec Lexus en plein hiver, il y a à peu près un mois et demi. Et on nous a mis une 350, donc le modèle avec transmission, un arbre et quatre roues motrices mécaniques, où là, il y a les quatre roues qui fonctionnent en permanence versus un système électrique, c'est-à-dire que les moteurs sont derrière. Il y a deux moteurs dans le RX450 qui sont à l'arrière. Il n'y a pas d'arbre de transmission, donc c'est pas un quatre roues motrices mécanique, c'est un quatre roues motrices électrique. Et ça fonctionne en temps normal comme un deux roues motrices.
C'est réactif.
Mm-hmm. Donc, c'est l'équivalent d'un système quatre roues motrices à temps partiel. On pourrait le décrire comme ça. Dans des conditions extrêmes, dans la neige où on était sur la glace, on va déceler un léger flottement pendant à peu près une seconde, le temps que le système embarque. Mm-hmm. Et là, on va après ça voir la réaction. Donc, il n'y a pas le même côté un peu joueur, un peu chasseur des quatre roues motrices. Il y a un délai, mais vraiment dans des conditions extrêmes. Parce que je l'ai eu sur la route la semaine dernière, où il restait quelques endroits glissants. Puis honnêtement, j'ai pas vu de différence. Là. Il faut vraiment qu'on soit dans des conditions extrêmes. L'avantage que ça donne, c'est que d'une part, c'est moins gourmand parce que...
C'est plus léger sur c'est la, plus, la
ben, en fait, c'est ça impose moins aux quatre roues et ça donne des résultats en puissance qui sont quand même très bons. Mais honnêtement, avec un peu plus de 300 chevaux, c'est pas un modèle qui vous donne envie. C'est comme le Telluride. Ça vous donne pas envie d'écraser, de peser dessus.
Ouais.
C'est un modèle qui se veut confortable, luxueux. Et c'est surtout très fiable. Ce modèle-là est un modèle de fiabilité dans les véhicules utilitaires.
Mm-hmm.
Ben, c'est une des raisons pourquoi il conserve bien sa valeur. Mm-hmm. Donc, les gens qui veulent d'abord et avant tout un moyen de transport luxueux, il faut le dire, parce que le prix est quand même à l'avenant. Là, on est dans les 60 000 $ et plus. On commence à mettre un peu de matériel là-dedans. C'est pas donné, mais par contre, vous en avez pour votre argent, parce que vous allez garder ce véhicule-là 5, 6, 7, 8 ans, puis avec un minimum de problèmes là, au volant. Donc, je pense
c'est toujours bien distingué de BMW, Audi, leur VUS. Absolument. Est-ce qu'on est encore dans cette situation?
Oui, puis on vise pas la même clientèle. Mm-hmm. On vise pas du tout la même clientèle. Les gens qui achètent ça achètent d'abord avec la raison et non avec la passion. Parce que c'est pas un véhicule passionnel. Là. Les gens qui pensent, non. C'est un véhicule qui est raisonnable, qui est bien construit, qui est fiable, qui est silencieux. Et c'est ça que vous allez acheter. Alors, si vous imaginez que vous allez avoir de la performance comme on offre dans des modèles BMW, Audi, Mercedes, vous n'êtes pas à la bonne place. Il n'y a pas de modèle qui va vous décoiffer, mais il y a un modèle qui va vous amener en toute sécurité sans passer au garage aux 3 semaines pendant des années.
Un gros détail.
C'est un détail fort intéressant. Alors, c'est déjà la fin pour cette semaine. Merci, Alain, d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Je vous invite à écouter dans quelques minutes la suite des émissions avec Patrick Lagacé dans l'accéléré.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.